faut d'abord faire aimer le travail.
Donc il faut vraiment se défoncer comme des dingues.
On est numéro un mondial et on veut le rester.
Salarié heureux, client heureux.
Je crois qu'il y a chez la NUPES les gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail, et qui mentent parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler.
C'est important que le manager aide son collaborateur à développer son employabilité.
Non mais moi je suis actionnaire, donc je ne travaille pas, donc je ne travaille pas.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Galère et vous écoutez Galère de Taf. À chaque émission, on vous propose de discuter d'un ouvrage qui développe une pensée critique sur le travail, que vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire si vous travaillez trop, ou que vous n'avez pas pu acquérir si vous ne travaillez pas assez.
Voici des usines équipées de machines aux rouages incroyablement compliqués, mais tous conçus pour alléger le travail de l'homme. Machines massives obéissant à la simple pression exercée sur un bouton.
0,7.
Bien.
Ah, ok.
9,89.
Voyez ces boutons. Ils permettent de contrôler l'ensemble. Pas un seul bloc n'est manipulé par l'opérateur lui-même.
7,9. 7,9. 7,9.
Bien.
Ah, ok.
Laissez faire le travail pénible aux machines pour offrir à l'homme des travaux plus intéressants.
9,1.
On est bon.
Ok.
9,98.
Alors, on vous a fait ce petit montage donc pour vous faire un petit teaser. C'était ce qu'on vient d'entendre ici, c'était une archive de l'INA qui s'appelle l'automatisation technique de demain, qui a été couplée avec la voix de la commande vocale qui sert à guider les salariés des entrepôts Lidl. Ce dernier élément, je l'ai récupéré du documentaire Cache Investigation qui s'appelle « Travail, ton univers impitoyable » qui avait été diffusé en 2017. Donc dans cette nouvelle émission qu'on a intitulée « Retour vers le futur, la fin du travail n'aura pas lieu », on va s'intéresser aux nouvelles technologies et à leur impact sur la nature et la cadence du travail. Est-ce que les machines permettent une amélioration des conditions des salariés? Est-ce qu'on peut imaginer un horizon différent pour le futur du travail?
Donc on s'est basé sur le livre de Juan Sebastian Carbonell, « Le futur du travail », sorti aux éditions Amsterdam en 2022. Donc lui, l'auteur, il avance que contrairement aux prophéties sur la fin du travail ou sur les changements révolutionnaires de ce dernier, en fait, il continue d'occuper toujours la même place centrale dans nos vies et dans l'organisation de nos sociétés capitalistes.
Alors, le travail humain est-il menacé de remplacement par les machines ou les algorithmes? Le salariat est-il voué à disparaître? Quelle forme prendra le travail? Et peut-on tenter d'ouvrir le débat sur les voies de son émancipation?
De tout temps, les hommes se sont efforcés par la création et le développement de techniques nouvelles de détourner à leur profit les forces de la nature. Usant d'adresse et d'ingéniosité, ils construisent des machines complexes qui leur permettent de répondre à des besoins nouveaux.
Les gens, ils n'auraient plus rien à faire parce que ils ne travailleraient plus. Une fois qu'il y aurait des robots, il y aurait des robots pour fabriquer des robots. Et ils ne travailleraient plus, ils grossiraient et je crois que la race de l'homme se perdrait.
Confirmant les espoirs que l'on peut placer en elle, la supériorité de la machine s'affirme dans tous les domaines, même dans la fabrication des saucisses.
En regardant ces échanges hommes-machines, je me suis demandé si la France allait être touchée par cette vogue croissante de l'électronique et si nous devions en avoir peur.
3 millions d'emplois supprimés en France d'ici à 2025. Il s'agit à ce stade, heureusement, d'un scénario de science-fiction. Cependant, une étude affirme que les robots vont nous obliger à revoir notre modèle social aux caisses des supermarchés, dans les hôpitaux, aux guichets des administrations. 20% des tâches pourraient être automatisées.
Merci pour ce super montage, Lisa. donc, comme on l'entend dans cet extrait, il y a depuis tout temps, enfin depuis très longtemps en tout cas, des discours qui prédisent la fin du travail. L'avènement des machines et des algorithmes serait capable de se substituer au travail des humains. Alors, est-ce qu'on va tous et toutes remplacés par des machines et que provoquent les nouvelles technologies sur notre travail ? Dans les discours dominants, on pense souvent que l'automatisation se résume à remplacer le travail humain par l'action d'un robot, d'une machine ou d'un logiciel. Mais la réalité est beaucoup plus complexe et la technologie ne se limite pas à supprimer le travail humain dans les entreprises. C'est ce que tu vas nous expliquer, Lisa.
Oui, alors en fait, l'auteur, il identifie quatre conséquences des nouvelles technologies sur le travail. Donc la première conséquence, c'est celle dont on entend le plus parler et qui nourrit le plus de fantasmes, c'est la substitution ou le remplacement. Donc c'est remplacer du travail humain par le travail d'une machine. Mais en fait, parallèlement à cette substitution, l'automatisation, elle provoque un processus de déqualification, requalification du travail. En fait, c'est quand un travail complexe et qualifié va être découpé en une succession de tâches simples et une partie va être effectuée par une machine ou par un logiciel. Et en fait, le travail restant, il va se retrouver déqualifié et il pourra être attribué à une main-d'œuvre moins formée ou moins expérimentée et souvent, du coup, moins bien payée, quoi. Et à l'inverse, on peut assister à un mouvement de requalification. Donc certains ouvriers de production vont devenir des ouvriers d'entretien formés à la manutention et à la programmation des nouvelles machines. Donc il n'y a pas juste un remplacement, il y a vraiment un changement de nature du travail. Un troisième type de conséquence qu'on voit quasi systématiquement en fait, avec l'introduction de nouvelles technologies au travail, ça va être l'intensification. Comme on est dans un modèle qui est perpétuellement en quête de productivité, quand la machine libère du temps en prenant en charge certaines tâches, le travailleur il va devoir employer ce temps à se concentrer sur d'autres tâches. Évidemment, ça ne va pas être du temps libre qui va être libéré. Donc, il y a une augmentation des rythmes et des cadences. Et enfin, donc, la quatrième conséquence qu'il identifie, c'est un accroissement de la surveillance et du contrôle. Déqualifier les salariés, ça permet de mieux contrôler le travail. Et introduire de nouvelles machines, en fait, ça permet d'imposer une manière de faire et un rythme, le rythme de la machine. Ça permet de chronométrer, ça permet d'encadrer. Du coup, on peut prendre un exemple très concret. Donc lui, il prend cet exemple-là dans le bouquin qui s'applique à l'industrie automobile parce que c'est vraiment un secteur sur lequel il a beaucoup travaillé. Qui montre en fait que ces processus, ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Ces quatre conséquences, souvent, elles fonctionnent en interaction. Donc si on prend dans une usine automobile une chaîne de montage, on va avoir des caristes. Eux, leur travail, ça va être d'apporter les pièces aux monteurs. Donc les monteurs vont chercher ces pièces, ils les choisissent et ils reviennent à leur poste. On décide d'automatiser. Donc on va mettre des chariots automatisés qui vont apporter les pièces dans des kits directement au poste des monteurs. Ici, on va observer plusieurs conséquences. On a la suppression des postes de caristes, donc on a bien un remplacement, une substitution. On a la création de postes moins qualifiés, donc les kitters, qui vont juste assembler les nouveaux kits. Donc il y a une vraie déqualification. Et l'intensification du travail des monteurs, qui doivent désormais se concentrer uniquement sur le montage.
Puis un autre exemple aussi assez parlant, c'est les caisses automatiques dans les supermarchés. Mmh. Les caissières, elles n'ont pas disparu. Les caisses automatiques se sont simplement ajoutées aux caisses classiques. Pourquoi ? Parce que les directeurs des supermarchés ont en fait assez vite observé que les clients étaient moins efficaces que les caissières à scanner les produits eux-mêmes. On a un autre extrait à vous passer où on a un patron de chez Lidl qui nous explique dans l'extrait là la technique du triple scannage.
Waouh, j'ai hâte.
Et avec ces nouvelles caisses, vous avez triple scannage. Donc vous avez le scannage par le bas, le scannage latéral, mais aussi
d'accord.
Le scannage transversal qui va en fait permettre à la caissière de pouvoir, sans faire de gestes inutiles, passer les produits plus rapidement. Une caissière passe environ entre 29 et 32 articles à la minute.
Voilà, donc je pense pas que nous, citoyens lambda, pouvons passer 29 à 30 articles à la minute.
En fait, c'est ça. Le but des employeurs, ça va être de fluidifier et d'augmenter la productivité. Donc souvent, les nouvelles technologies, elles viennent s'ajouter. Pareil, quand ils ont introduit les guichets automatiques, il y a eu un peu une panique de « Ah, les employés de banque vont disparaître ». Et en fait, on voit juste que leur travail a changé de nature. Quoi.
Ouais, c'est ça. Donc pour résumer, en fait, les vraies questions, ce serait plutôt à qui profitent les machines et dans quel but sont-elles introduites ? Les nouvelles technologies, elles sont ni bonnes ni mauvaises en soi, mais en fait, elles sont pas neutres. Entre les mains des employeurs, elles sont synonymes d'intensification, de déqualification, comme tu expliquais, de suppression de postes. Mais du coup, on peut se poser la question, entre les mains des salariés eux-mêmes, est-ce qu'elles ne pourraient pas permettre de rendre le travail moins pénible ?
Alors, dans la deuxième partie, l'auteur aborde la notion de précariat. Donc ça, c'est une notion de socio-économie qui a été développée par Guy Standing, qui est un économiste, et qui parle du précariat comme la nouvelle classe émergente qui remplacerait le prolétariat et qui serait du coup le futur du travail. Lui, il explique, l'auteur, que oui, le salariat se dégrade et on voit se développer des formes de contrats plus précaires, mais qu'en fait, le salariat, ça reste malgré tout la norme qui domine l'organisation du travail. Par exemple, le salariat en CDI, ça représente 3/4 des actifs en France. L'économie de plateforme, l'ubérisation, les commandes à distance remettent en cause les formes classiques d'organisation du travail, notamment le salariat, mais l'auteur en relativise l'impact, en fait. Face à ces transformations, donc on a vu, comme je disais, émerger cette idée selon laquelle la division de la société entre prolétaires et patrons ne serait plus d'actualité parce que du coup, tous précaires. Et donc, c'est ce rapport de domination, ce rapport de force, il n'aurait plus lieu d'être. C'est une nouvelle classe encore plus nombreuse qui aurait émergé. Or, sans nier la précarisation des travailleurs et des travailleuses, parler de précariat, ça occulte le fait que leur division en une multitude de statuts n'a rien de nouveau. Cette dernière, elle a toujours existé sous diverses formes dans l'histoire du capitalisme. Et ça ferait penser que l'analyse du travail selon ce prisme de division du travail entre travailleurs et ceux qui sont en possession des moyens de production ne seraient plus pertinentes, alors qu'en fait l'auteur montre que si, ça reste l'organisation majoritaire du travail encore aujourd'hui, quoi.
Ouais, et puis il fait un petit aparté aussi, il compare, en fait souvent on compare la société dans laquelle on vit avec la période des 30 glorieuses du soi-disant plein emploi, mais l'auteur rappelle bien que c'est un mythe masculino-centré, parce qu'en fait à cette période, la moitié des femmes entre 25 et 49 ans, elles exerçaient pas d'emploi rémunéré. Aujourd'hui, la majorité des femmes de cet âge-là exercent un travail, sont entrées dans ce fameux marché du travail, ce qui modifie forcément les chiffres du chômage et le taux d'activité en France. Donc, il semblerait que le futur du travail ne soit pas le remplacement du salariat par une multitude de statuts précaires, mais en fait, on assisterait à une dégradation du salariat classique qui reste la norme, et en fait, on aurait l'émergence à la marge d'emplois aux conditions instables et dégradées.
Donc, pour résumer ce qu'on vient de dire, finalement, les nouvelles technologies ne vont pas rendre le travail superflu et la précarité ne va pas faire disparaître le salariat. Plutôt que de disparition, il y a des évolutions et des transformations. Et parmi ces évolutions marquantes, l'auteur observe l'émergence de ceux qu'il nomme les nouveaux prolétaires du numérique.
Ouais, ces nouveaux prolétaires du numérique, ce qu'on appelle plus communément l'ubérisation, qui vise à mettre au travail des nouvelles populations en contournant le droit du travail au travers des plateformes numériques. Donc c'est un travail à la pige, à la tâche, qui représente du coup un des aspects fondamentaux de l'économie numérique. C'est un taf précaire, temporaire, payé à la tâche et sans protection sociale. La meilleure expression pour désigner l'émergence de ce nouveau secteur serait le capitalisme de plateforme. Donc on a retenu cette expression parce qu'elle montre bien la continuité avec le régime d'accumulation capitaliste, pardon, je bafouille un peu, dans le système dans lequel nous vivons. La vraie nouveauté avec ce capitalisme de plateforme réside dans le fait d'avoir complètement externalisé la main-d'œuvre et de se présenter comme un simple intermédiaire entre les clients et les vendeurs de services indépendants, qui assument seuls les risques et qui, eux, ne bénéficient pas de protection sociale et de protection sociale du salariat.
Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve vraiment ici les logiques dont j'ai parlé précédemment avec la nouvelle technologie. Surveillance algorithmique, contrôle, intensification avec la rémunération à la pièce, qui pousse, par exemple, à prendre toujours plus de courses. C'est un algorithme qui calcule le temps que tu es censé mettre pour livrer, etc. Et en fait, moi, ça me fait penser, quand j'étais encore étudiante, je bossais en tant que serveuse dans un resto, et au moment du Covid, du coup, le restaurant a fermé, mais on restait ouvert uniquement pour les commandes de beurre. Et du coup, moi, mon travail a changé de nature. Mon travail de serveuse n'a pas été supprimé, il a changé de nature. Et moi, mon rôle, c'était d'encoder toutes les commandes de beurre, de les amener à la cuisine, quand c'était prêt, d'aller chercher les commandes en cuisine et de les donner au livreur. Donc déjà, il y a une forme de déqualification parce qu'en fait, j'ai pas eu besoin d'avoir été serveuse avant pour faire ça. Il y a aussi une intensification du travail parce que typiquement, dans un restaurant classique, t'as des moments de rush, t'as des moments de calme. Et aussi, quand toutes les tables sont prises, juste, on prend pas de nouvelles commandes. Et là, virtuellement, ils étaient en flux tendu tout le temps. Enfin, tu reçois des commandes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme si tu étais dans le méga rush du début à la fin de ton shift, alors que d'habitude, ça n'arrive pas. Donc, il y a une vraie intensification. Moi, j'étais uniquement concentrée sur encoder, amener. Et il y a vraiment aussi un truc de contrôle et de surveillance où moi, je me rappelle, si je n'avais pas allumé la tablette à 19h et j'avais un appel qui était programmé avec une voix électronique qui me disait que je n'avais pas allumé la tablette et qu'il fallait qu'on commence le shift. Une fois que tu as ouvert l'appli Uber, tu ne peux pas baisser le son de la tablette. Et en fait, ça sonne en continu tant que tu n'as pas encodé la commande. Et si je voulais mettre en pause les commandes pour X raisons, il fallait que je le justifie auprès d'Uber, quoi. Donc, tu as vraiment ce truc-là où, en fait, à ce moment-là, moi, mon travail de serveuse, il n'a pas juste été supprimé ou remplacé par Uber. Il a profondément changé de nature avec plus de surveillance où c'est la machine qui impose le rythme. Comme on disait, il y a un changement de rythme, pour moi comme pour la cuisine d'ailleurs. Plus de surveillance, plus d'intensité et une déqualification, quoi. Donc c'est vraiment les mêmes logiques qu'on observe. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que selon l'auteur, l'ubérisation n'est probablement pas le futur du travail. En fait, on entend souvent que ce serait une espèce de raz-de-marée qui risque de submerger l'ensemble de l'économie, alors qu'en France, il y a seulement 7% des actifs environ qui sont concernés. Et plusieurs de ces géants du numérique ne cessent de perdre de l'argent, en fait, que ce soit Deliveroo, Uber ou Tesla. Et ça peut s'expliquer pour des raisons économique. En fait, il n'y a pas de fidélisation de la main-d'œuvre. C'est beaucoup trop précaire, c'est trop peu attractif. Donc, il y a vraiment un turnover hyper important. Et c'est considéré comme une activité d'appoint plutôt. Et c'est un modèle qui est très peu viable et qui dégrade la qualité des services. Donc, pareil, c'est probablement pas le futur du travail de tous auto-entrepreneurs, tous sur les plateformes numériques. En fait, c'est une espèce de fantasme de capitalisme pur, mais qui à l'épreuve de la rationalité économique ne fait pas ses preuves. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit aussi avec les ateliers entièrement automatisés là, où ils ont essayé par exemple à Tesla de mettre ça en place et ils ont fait machine arrière parce qu'en fait ça coûte beaucoup trop cher par rapport aux gains espérés et finalement ça relève plus d'une forme de prophétie de prophétie autoréalisatrice pour attirer des investisseurs. Ça relève plus d'une forme d'idéologie que d'une forme de rationalité économique, finalement. Par contre, ce qu'il ne faut pas minimiser, c'est que ça a quand même un impact. En fait, les plateformes, ça reste des laboratoires de l'exploitation capitaliste, et donc toute avancée du capital sur ce terrain a des conséquences pour l'ensemble des travailleurs.
Ensuite, l'auteur fait toute une partie, consacre toute une partie de son livre sur le travail du flux. Donc, il aborde la notion ici de capitalisme logistique, il appelle ça comme ça, donc, c'est-à-dire en fait l'accélération de la circulation des marchandises à l'échelle internationale. Ce capitalisme logistique est source de création de plein de nouveaux emplois ouvriers dans le monde. C'est un peu comme la nouvelle classe des agriculteurs, mais de la manière contemporaine, quoi. Pour illustrer mes propos, on a trouvé une petite publicité pour un de ces fameux entrepôts automatisés.
En Espagne, dans une petite ville proche de Madrid, Luis Simoes a construit un centre logistique moderne de 66 000 mètres carrés. Mecalux a équipé ce site d'un magasin automatique doté du système Pallet Shuttle avec navette de rayonnage à palette et d'un système monorail électrique au sol. La priorité de l'entreprise était de rationaliser et d'optimiser la préparation et l'expédition de 4000 commandes par jour. Mecalux a trouvé la solution. Un magasin automatique faisant office de buffer d'expédition et doté du système Pallet Shuttle avec navette. Le logiciel de gestion d'entrepôt EasyWMS de Mecalux est chargé d'organiser, classer, stocker et gérer la marchandise dans le magasin automatique, une solution globale fournie par Mecalux à ce centre logistique de référence.
Ah oh, ça fait rêver.
Bon, on s'est un peu marré en faisant ça, en vous diffusant ça, mais ce qu'on voulait montrer quand même à travers cet extrait, c'est qu'à aucun moment le travail des employés est cité. Il est complètement invisibilisé. Ça, c'est bien ce que l'auteur dévoile dans son livre. En fait, il explique que ce secteur de la logistique insiste beaucoup sur la légèreté et la fluidité des opérations et il va masquer en parallèle toute la lourdeur des opérations de manutention par les travailleurs et les travailleuses. Même si pendant le Covid, on a davantage pris connaissance de ces métiers, aujourd'hui, ce secteur il reste quand même majoritairement invisibilisé. Ce flux des marchandises est devenu un vrai organisateur du travail. C'est le marché qui dicte quand, comment et en quelle quantité produire. Les frontières du coup, entre la production, la circulation, la fabrication, le transport, elles sont de plus en plus floues. Tout est saccadé, externalisé pour réduire des coûts, mais on fait croire à une vraie fluidité des opérations. Et que ce soit les robots qui sont apparemment appelés les robots H-Drive qui ont été introduits dans les usines Amazon ou alors la fameuse commande vocale de chez Lidl dont on parlait en début d'émission où toi Lisa, t'as commandé Uber, toutes ces machines on voit bien qu'elles ne permettent pas de faciliter le travail des ouvriers et ouvrières mais bien d'intensifier ce dernier.
Et du coup, l'auteur, il fait un petit point aussi sur les nouveaux parcs logistiques qui apparaissent aux périphéries des grandes villes. En Île-de-France, il y a 8800 nouveaux établissements qui sont apparus et ça représente plus de 190 000 salariés hors intérimaires. Donc c'est vraiment ces immenses box en tôle. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur, hormis peut-être les personnes qui rentrent et qui sortent, quoi. Et en principe, un entrepôt et une plateforme logistique, c'est vraiment deux choses distinctes, mais les deux fonctions sont rassemblées pour une économie de temps et d'argent. Mmh. Donc on n'est plus exactement sur une chaîne de production tayloriste, mais presque, on s'en rapproche en fait. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que dans le secteur logistique, l'accidentologie est plus importante que dans le secteur du BTP. Donc c'est vraiment des métiers à risque, quoi.
Ouais. Du coup, ce secteur de la logistique, c'est vraiment devenu un secteur hyper fondamental dans notre société capitaliste mondialisée. Et ça constitue un bel exemple à la fois de dégradation des conditions de travail, mais aussi, et ça on voulait le noter, du potentiel stratégique de lutte. Parce que si ce secteur se met en grève, c'est toute l'économie mondialisée et tout l'approvisionnement en marchandises qui est bloqué. C'est ouais. Ce qu'on avait vu avec...
On l'avait vu là, après le Covid, là, ouais. Il y avait un
bateau.
Ouais, un bateau de marchandises, enfin un cargo, je ne sais pas, ouais. Qui s'était coincé dans le canal de Suez, je pense. Et en fait, juste un maillon de la chaîne qui déraille et c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui est, en fait, c'est hyper fragile quoi, comme modèle. Donc oui, potentiellement, stratégiquement, c'est des secteurs qui auront peut-être un rôle à jouer dans les luttes à venir, quoi. Donc, pour conclure, on a vu que le travail reste central dans notre société. Il ne disparaît pas, mais se multiplie dans des nouveaux secteurs et prend de nouvelles formes. Les nouvelles technologies accompagnent les transformations socio-économiques du capitalisme qui ne cesse de déplacer ses frontières et le périmètre des populations qu'il concerne, tout en dégradant les conditions de travail du salariat stable. Ce dernier, il reste la norme, mais il est rongé à la marge par une armée de travailleurs précaires et il est attaqué en son centre et en permanence par les réformes néolibérales du marché du travail et des gouvernements successifs qu'on a pu voir, quoi. Donc on peut se poser la question, quelle politique mettre en place ? Ce qui est intéressant, c'est que dans cette partie, l'auteur, il va récuser et critiquer trois propositions qui sont régulièrement avancées quant au futur du travail, trois positions qui sont présentées comme désirables. La première, c'est le revenu universel. Donc le revenu universel, en fait, c'est vraiment un truc qui revient souvent en période de crise et qui est d'ailleurs porté par plein d'acteurs de l'échiquier politique qui peuvent être assez éloigné finalement politiquement, ce qui pose question. et en fait, lui, il explique que le revenu universel, il s'inscrit toujours dans une logique qui reste très libérale, en fait. Une logique de charité plutôt que de solidarité. On passe d'une lutte contre les inégalités portée par les travailleurs et les travailleuses, elles, eux-mêmes, à une lutte contre la pauvreté portée par l'action publique. Et en fait, ça ne va pas prendre en compte l'existence de la lutte des classes du tout. Ça ne remet pas en question la structure profondément inégalitaire de notre société de classe. En fait, c'est un prisme qui est très individuel et qui reste assez dépolitisé et qui évacue complètement la question de justice sociale. En fait, le revenu universel ne défend pas un autre projet de société, fondamentalement. Ça ne vient pas questionner les inégalités du tout. Et d'ailleurs, souvent, quand il est proposé dans sa version la plus libérale, il vient se substituer à la solidarité et aux aides sociales, quoi. L'autre proposition qu'on entend souvent, ce serait de démocratiser les entreprises. Ce serait qu'il y ait plus d'horizontalité entre salariés, patrons, actionnaires. Et lui, il explique que, en fait, tant que le but demeure d'engranger du profit et de dégager du profit pour les actionnaires, il ne pourra pas y avoir de véritable démocratie en entreprise. Il faudrait plutôt envisager qu'il y ait un contrôle exercé par les salariés comme moyen de démocratisation. Mais en fait, si le but reste l'accumulation de profits, il n'y aura pas de vraie démocratisation.
Oui, c'est un écran de fumée. Quoi.
Oui, ce sera toujours un écran de fumée, c'est ça. Mmh. Et enfin, il parle de la proposition qui serait sortir purement et simplement du travail. Donc lui, il explique que, en fait, pour l'instant, c'est impossible parce qu'il y a toujours besoin de travail pour survivre et pour vivre. En fait, on l'a vu, la machine ne remplacera pas complètement l'humain. Souvent, ce discours, il va de pair avec ça en disant que quand on aura été complètement remplacé par des machines, alors on pourra ne plus travailler, etc. Donc nous, on l'a vu tout au long de l'émission, ça n'arrivera pas. Et lui dit que pour l'instant, sortir du travail, ça ne peut être qu'un choix individuel et qui restera dépendant du travail des autres. Il prend notamment l'exemple de la ZAD Notre-Dame-des-Landes en disant que c'est un projet qui est hyper intéressant, que c'est des espaces de création et d'expérimentation qui sont hyper précieux, mais que malgré tout, tu restes dépendant, par exemple pour les médicaments, pour les outils, tu restes dépendant du travail des autres, quoi. Oui, pardon, vas-y.
Et du coup, pour l'auteur, l'horizon à atteindre, c'est deux choses. C'est à la fois de libérer la vie du travail, mais aussi et surtout, en fait, libérer le travail de la domination du capital. Et ça, il insiste beaucoup dessus, et ce qui paraît logique. En fait, ça signifie, par exemple, qu'il ne faut pas simplement passer d'une semaine de 5 jours à 4 jours tout en gardant la même productivité. Il faut bien libérer ce travail de la domination du capital, c'est-à-dire repenser notre système de production. Il faut redonner aux travailleuses et aux travailleurs le contrôle sur ce qu'on veut produire, comment, à quel rythme, pour répondre à quels besoins, etc., tout en rééquilibrant les richesses. Et en fait, c'est qu'à ce moment-là que le travail pourra acquérir une vraie dimension politique et ne constituera plus une exploitation.
Ouais, moi, je trouvais ça assez intéressant, justement, ce double mouvement de libération dont il parle, parce qu'il dit oui, il faut libérer la vie du travail et donc passer moins de temps à travailler et mieux répartir le travail. Mais il explique que, encore une fois, tant que le travail est soumis au capital et que le but, c'est la productivité, toute baisse du temps de travail sera compensée par une plus grande flexibilité horaire ou par une intensification du travail. Et lui disait que on n'a jamais aussi peu travaillé en termes d'horaire, mais on n'a jamais autant travaillé en termes de production. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, c'est en fait... C'est comme la question des machines tout à l'heure, quoi. À qui profitent les machines et dans quel but on s'en sert. Ouais. Et tant que ce n'est pas les travailleurs eux-mêmes qui ont le contrôle de...
Je me demande, par exemple, aussi ce que ChatGPT pourra... provoquer comme changement de
mais
du c'est, travail.
Bah ouais, mais pareil, on a vu cette espèce de panique morale en disant y a plein de métiers, le métier de journaliste, etc., qui vont être remplacés par ChatGPT. Et en fait, on voit les limites de ChatGPT. Il y a plein d'endroits où, en fait, ne remplacera pas les humains. Peut-être que ça dégagera du temps aux travailleurs, aux travailleuses pour se concentrer sur d'autres tâches. Mais encore une fois, c'est un peu toujours les mêmes mécanismes qu'on observe, quoi.
Ouais.
Donc on rappelle que le titre du livre sur lequel on s'est basé pour cette émission, c'est « Le futur du travail » de Juan Sebastian Carbonell, sorti aux éditions Amsterdam en 2022.
Merci de nous avoir écoutés, c'était Galère de Taf sur Radio Galère, on vous donne rendez-vous le mois prochain, même heure, pour une nouvelle émission.
cau, cœur du rêve d'espoir trop lointain. Hier en fin ma patience la sort, en arriver elle n'a pas trop. Est-ce super qu'elle n'aime pas papa? Trop basse qu'elle travaille trop gaille, qu'elle boit des plus vagues contentes. Despre capite muestro moagi, es ma faie pesia spenia. Se vos egada y en giuscar,